إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنبدأ مستعينين بالله تعالى، وأنتم ترون أن الأخ المكلف بالترجمة إلى الإنجليزية لم يأتي بعد، ولا نستطيع أن نتأخر فوق هذا، فسنبدأ إن شاء الله وبحسب ما يتيسر له وبحسب ما يدرك إن كان سيدرك شيئا. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها، وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء، ومنه الدعاء والخوف والرجاء، والتوكل والرغبة والرهبة، والتوكل والرغبة والرهبة، والخشوع والخشية والإنابة، والخشوع والخشية والإنابة، والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة، والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة. من الخطأ أن يقال الاستعانة، هذا غلط. الاستغاثة، الاستعانة، هذا كله غلط. هذه همزة وصل، بس أتذكر لكم هذا إن شاء الله. والذبح والنذر، والذبح والنذر، وغير ذلك من أنواع العبادة، وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، التي أمر الله بها كلها لله تعالى، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى، والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة، وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وأعيد مرة أخرى. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. طبعا هناك تتمة في كلام الشيخ رحمه الله، هذه الفقرة هي التي سنتناولها اليوم إن شاء الله. الأفكار الرئيسية في هذه الفقرة، أولا الكلام على بعض أنواع العبادة ثانيا حكم من صرف منها شيئا لغير الله ثالثا الكلام على الدعاء رابعا الكلام على الخوف خامسا الكلام على الرجاء، الكلام على الرجاء. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، donc je vais lire le passage que le Cheikh Hafidah Allah a lu. Donc l'auteur dit Cheikh Mohammed Ibn Abdel Wahhab rahimahullah ta'ala, dans le sens quant aux différentes formes d'adoration comme l'islam, la soumission, l'iman, la foi, l'ihsan, la bienfaisance, ainsi que l'invocation, l'dua, la peur, l'khouf, l'espoir, l'raja, la confiance, l'tawakkul, le désir, l'raghba, l'effroi, l'rahba, l'humilité, l'khushu', la crainte, l'khashya, le retour vers Allah, l'inaba, la demande d'aide, l'isti'ana, la demande de protection, l'isti'ana, la demande de secours, l'isti'rafa, le sacrifice, l'dhabh, le serment, l'œuvre, et autres formes d'adoration qu'Allah a ordonné d'accomplir sont toutes pour Allah Ta'ala. La preuve réside dans la parole d'Allah Ta'ala, dans le sens, les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. Quiconque donc voue une de ces formes d'adoration à un autre qu'Allah est un polythéiste mécréant. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah Ta'ala, dans le sens, et quiconque adore avec Allah une autre divinité alors qu'il n'a aucune preuve évidente de son droit d'être adoré, entre guillemets, aura à en rendre compte, à son Seigneur. En vérité, les mécréants ne réussissent pas. De même, il y a le hadith suivant. L'invocation est l'essentiel de l'adoration. La preuve se trouve dans la parole d'Allah Ta'ala, dans le sens, et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Ceux qui, par orgueil, se refusent à m'adorer, entreront bientôt dans l'enfer humiliés. La preuve concernant la peur d'Allah se trouve dans la parole d'Allah Ta'ala, dans le sens, n'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. La preuve concernant l'espoir en Allah réside dans la parole d'Allah Ta'ala, dans le sens, quiconque espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe personne dans l'adoration de son Seigneur. Donc, je vais lire les idées principales. La première, la parole sur certaines sortes, sur certaines catégories d'adoration. Premièrement, la parole sur certaines catégories d'adoration. Deuxièmement, le jugement de celui qui en attribue à autre qu'Allah. C'est-à-dire le jugement de celui qui attribue une quelconque adoration à autre qu'Allah. Troisièmement, la parole sur la dua, c'est-à-dire la parole sur l'invocation. Quatrièmement, la parole sur al-raja, c'est-à-dire la parole sur al-safirma. Quatrièmement, la parole sur al-khawf, c'est-à-dire la parole sur la peur. Cinquièmement, la parole sur al-raja, la parole sur l'espérance. Et bien sûr, c'est-à-dire, l'auteur a continué en cela, mais le Cheikh Hafidah Allah va expliquer ce paragraphe aujourd'hui, et on continuera la prochaine fois aujourd'hui.
بدأ الشيخ رحمه الله تعالى في الكلام على بعض أنواع العبادة. وهذا إكمال لما بدأه من الكلام على توحيد الألوهية، فقد عرفت في الفقرة السابقة أنه تكلم على التوحيد وربط بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، فأراد أن يفصل الكلام في توحيد الألوهية الذي هو توحيد العبادة، فذكر أنواعا من العبادة التي يجب صرفها لله تعالى حتى يوضح لك حقيقة توحيد الألوهية ويقربه بضرب الأمثلة. فذكر أمثلة وأنواعا للعبادة، ذكر أولا الإسلام والإيمان والإحسان، وسيأتي الكلام عليها في موضعه إن شاء الله. ثم ذكر أنواعا أخرى من العبادات كالدعاء والخوف والرجاء ونحو ذلك. ذكر هذا أولا على سبيل الإجمال، ثم تكلم بعد ذلك على كل نوع من هذه الأنواع، وذكر شيئا مما يدل عليه من النصوص، فسيكون الكلام على كل نوع في موضعه من تفصيل الشيخ رحمه الله. نعم.
Donc, la première idée principale, la parole sur certaines catégories d'adoration. Donc, donc l'auteur a commencé sur la parole à propos de certaines catégories d'adoration. Tandis, ceci est pour parachever la parole de l'auteur sur le Tawhid Uluhiyya qui a précédé ce qu'on a pu voir la semaine dernière. Et le fait que l'auteur, rahimahullah ta'ala, avait fait la liaison entre le tawhid uluhiyya, l'unicité dans l'adoration, et le tawhid rububiyya, c'est-à-dire l'unicité dans la seigneurie. Donc après avoir fait le lien entre ces deux axes du tawhid, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a voulu détailler le tawhid uluhiyya, le tawhid uluhiyya, c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans l'adoration. Et le fait que, et il a voulu aussi l'auteur montrer certains exemples et certaines catégories de ces adorations, yani de ces types d'adoration. Donc l'auteur a dit quant aux différentes formes d'adoration, comme l'islam, la soumission, l'iman, la foi, l'ihsan, la bienfaisance. Donc ces trois choses-là vont venir plus tard, d'une manière détaillée, dans le livre de l'auteur, rahimahullah ta'ala. Ensuite, il dit ainsi que l'invocation, la peur, l'espoir, etc. Donc l'auteur, d'une manière globale, cite un grand nombre d'adorations, puis il va donner la preuve de chacune de ces adorations, c'est-à-dire la preuve tirée des textes de chacune de ces adorations-là, comme on va voir.
ثانيا حكم من صرف شيئا من العبادة لغير الله. ذكر الشيخ كما رأيت أنواعا للعبادة، وذكر بعد ذلك حكم من صرف منها شيئا لغير الله. عرفت أن العبادة كلها لابد أن تصرف لله عز وجل، وعرفت أن هذا هو معنى توحيد الألوهية. فما حكم من خالف ذلك؟ ما حكم من صرف شيئا من العبادة أو نوعا منها لغير الله عز وجل؟ قال: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. هذا هو حكمه، الذي يعبد غير الله، الذي يتوجه لغير الله، الذي يصرف شيئا من العبادة لغير الله، هذا كله له حكم واحد وهو الكفر والشرك. وهذا لأنه تعدى على حق الله، فإن توحيد الألوهية هو حق الله على العباد، كما في حديث معاذ رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أتدري ما حق العباد على الله وما حق الله على العباد؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فقال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا هو حق الله علينا، هذا هو ما يستحقه الله تعالى منا. وتستحضر هنا الربط بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. فتوحيد الربوبية هو الذي من خلاله عرفت أن الله هو خالقك ورازقك ومدبر أمرك، فهذا يستلزم أن تطيع هذا الرب وأن تعرف حقه عليك، وهذا هو توحيد الألوهية، ألا تعبد إلا الله، ألا تتوجه إلا لله. فإذا تعدى الشخص على هذا، إذا فرط في هذا الأمر، فقد تعدى على حق الله، وبالتالي لا يجوز أن يكون مسلما، لا يجوز أن يكون موحدا. كيف وهو لا يوحد الله عز وجل بعبادته وقربته؟ فهذا هو حكم من صرف شيئا من العبادة لغير الله. وها هنا تنبيه يتعلق بلفظ الشرك ولفظ الكفر. فالشيخ قال: فهو مشرك كافر. فها هنا يأتي سؤال: هل هناك فرق بين الكفر والشرك؟ فنقول: هناك فرق من وجه، وليس هناك فرق من وجه آخر. إيش معنى هذا؟ هناك فرق من جهة نفس اللفظ في لغة العرب، يعني لفظ الشرك في اللغة ليس معناه كلفظ الكفر، فالشرك مناقض للتوحيد. الشرك أن تجعل للشيء شريكا أو مساويا أو نحو ذلك، والكفر في أصله في لغة العرب هو التغطية، التغطية من الإنجليزية covering، التغطية والستر. والكافر سمي كذلك لأنه يستر الحق، يغطي الحق. إذن فمن جهة نفس اللفظين الكفر والشرك هناك فرق، وبناء عليه فالشرك أكثر ما يستعمل في مقام صرف العبادة لغير الله. يعني كلمة الشرك الآن عرفت معناها في اللغة، أكثر ما تستعمل في الشرع وفي لسان العلماء في مقام صرف العبادة لغير الله، يعني في مثل مقامنا هذا يقال الشرك أن تعبد غير الله، أن تتوجه لغير الله، لأن هذا هو الأليق بالحقيقة اللغوية لكلمة إيش؟ الشرك. ولفظ الكفر أكثر ما يستعمل في مقام الجحود والإنكار، لأن هذا هو الأليق بالحقيقة اللغوية. فهذا هو الفرق من جهة اللغة في أصل المعنى ومن جهة الاستعمال في عبارات العلماء. طيب قلنا هناك فرق من وجه وليس هناك فرق من وجه آخر. كيف ليس هناك فرق؟ كل مشرك كافر وكل كافر مشرك. يعني من هذه الحيثية شخص مشرك يصح أن تسميه كافرا ولا لا؟ يصح. شخص كافر يصح أن تسميه مشركا ولا لا؟ يصح. فمن جهة الحكم، الحكم على الأشخاص وما يترتب عليه من الردة مثلا أو المعاملة بغير معاملة الإسلام، فلا فرق بين إيش؟ اللفظين، لا فرق بين الكلمتين. ولهذا قال الشيخ هنا فهو مشرك كافر، سماه مشركا وسماه أيضا كافرا، لأنه يريد ماذا؟ يريد أن يبين أنه خرج عن ملة الإسلام، خرج عن ملة الإسلام، صنيعه هذا يخرجه عن ملة الإسلام. فإذا أخرجه عن ملة الإسلام وصيره مرتدا فإنه لا فرق في هذه الحالة بين الكفر والشرك، كل كافر مشرك وكل مشرك كافر. والكلام ها هنا أيضا إنما هو في الأفعال، يعني يقال من صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد أشرك وكفر، لكن الحكم على المعين هذا شيء آخر. الحكم على المعين، على الشخص المحدد زيد أو عمر أو بكر أو كذا، يحكم عليه بعينه أنه كافر أو مشرك، نخرجه عن ملة الإسلام عينا، هذا مقام آخر تماما. فالذي نبينه هنا هو إيش؟ الحكم، حكم الفعل، من فعل كذا، من أتى كذا، من صرف عبادة لغير الله. نتكلم على الحكم من جهة إيش؟ من جهة العموم، من جهة العموم، لكن الحكم على الأعيان هذا أمر مختلف. استدل الشيخ رحمه الله على ذلك بقول الله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، أي من دعا مع الله إلها آخر. إيش هذه الصورة؟ هذه صورة صرف عبادة لغير الله، دعا مع الله إلها آخر، والدعاء من العبادات كما سنعرف. وقوله تعالى لا برهان له به، أي لا حجة معه في صنيعه هذا، يعني الذي يدعو غير الله أو يعبد غير الله، هذا معه حجة في صنيعه هذا؟ معه دليل معتبر؟ هل هو محق في صنيعه هذا؟ ليس محقا، ليس مصيبا. فهذا هو معنى هذه العبارة من كلام الله عز وجل. ليس المقصود، وأنا لا أريد أن أخوض في هذه الجزئية تفصيلا، يعني ليس المقصود من هذه العبارة في الآية أن هناك أحدا يدعو غير الله وهو محق في ذلك، لا، ليس هذا هو المقصود من هذه العبارة. هذا يتكلم فيه العلماء تحت مباحث المفهوم، دلالة المفهوم وكذا، وهذا لا يحتمله المقصود. ثم قال تعالى فإنما حسابه عند ربه، يعني الذي يصنع هذا، الذي يشرك بالله، الذي يدعو غير الله وهو لا يمكن أن يكون محقا في هذا، فهذا حسابه عند ربه، الله يحاسبه على صنيعه هذا ويجزيه به. طيب، إلى هنا أين الدليل على الكفر؟ نحن نقول من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو كافر مشرك. طب أين الدليل؟ حتى الآن ما ذكرناه من الآية ليس فيه تصريح بذلك، لكن التصريح من أين أتينا به؟ في تتمة الآية يقول الله تعالى إنه لا يفلح الكافرون. إذن فهذا الصنيع الذي ذكره الله أولا هو صنيع من؟ صنيع الكافرين. وهذا تجده كثيرا في كتاب الله عز وجل، تجد مثلا أن الله تعالى يذكر قولا معينا أو فعلا معينا ثم يقول مثلا لا يفلح الظالمون، بهذا المعنى لا يفلح الظالمون، لا يفلح الفاسقون، لا يفلح المجرمون مثلا، فتفهم أن هذا الذي ذكر أولا من صنيع من؟ من صنيع الذين ذكروا بعد ذلك، من صنيع الكافرين أو الظالمين أو الفاسقين أو كذا. فهذه طريقة موجودة في القرآن بكثرة، ويستدل بها العلماء على الحكم. إذا ذكر الله عز وجل شيئا معينا ثم قال في هذا الشيء كما في هذه الآية إنه لا يفلح الكافرون، فهذا دليل على أن الشيء المذكور أولا إيش حكمه؟ كفر، وأنه من صنيع من؟ من صنيع الكافرين. وهذا موضع إجماع من أهل العلم فيما يتعلق بصرف العبادة لغير الله، هذا إجماع معلوم بالضرورة من دين الإسلام أن من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو كافر مشرك. نعم.
Donc la deuxième idée principale, à savoir le jugement de celui qui attribue à autre qu'Allah une de ses adorations. Donc le cheikh l'auteur a montré plusieurs catégories d'adoration, comme je l'ai cité auparavant. Puis l'auteur, rahimahullah, a voulu établir quel est le jugement de celui qui attribue une de ses adorations à autre qu'Allah, ou une de ses catégories d'adoration à autre qu'Allah. Donc le chef, l'auteur, rahimahullah, a dit que c'est un polythéiste mécréant. Que c'est un polythéiste mécréant. Ceci, car celui qui adore autre qu'Allah par une quelconque adoration a transgressé le droit d'Allah sur ses serviteurs. comme on peut le trouver dans le hadith authentique que rapporte Mu'adh, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé: sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs et quel est le droit des serviteurs sur Allah? Mu'adh a répondu: Allah et son messager sont plus savants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le droit d'Allah sur ses serviteurs est qu'il l'adore seul et que sans lui attribuer d'associé. Dans le sens, et qu'il l'adore seul sans lui attribuer d'associé. Jusqu'à la fin du hadith. Donc, ce hadith montre que le droit d'Allah Ta'ala sur ses serviteurs est de l'adorer seul et de ne lui attribuer aucun associé. Ceci car, comme on l'a vu, Allah Ta'ala, comme on a vu lorsqu'on a établi la semaine dernière ce qu'est le Tawhid al-Rububiyya, l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, c'est-à-dire que Allah Ta'ala, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui dirige l'ordre, c'est-à-dire le commandement, c'est lui qui nous a façonnés et c'est lui qui nous donne une subsistance. Donc ceci doit impliquer à tout prix une chose, et cette chose-là est le fait d'unifier son adoration pour Allah, de n'adorer que lui et de lui obéir. Donc maintenant, celui qui adore autre qu'Allah, il est sorti de l'unicité d'Allah, c'est-à-dire il est sorti du monothéisme. Il est sorti du monothéisme et il est donc devenu un mécréant polythéiste. Donc l'auteur dit: il est polythéiste mécréant. Y a-t-il une différence entre ces deux choses-là? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une différence entre al-mushrik, al-shirk ou al-kufr, entre la mécréance et l'association, c'est-à-dire le polythéisme? Dans la langue arabe, il y a une différence. L'association dans la langue arabe, c'est... Donc dans la langue arabe, l'association, c'est le fait d'attribuer à quelqu'un un égal, un associé. Tandis que la mécréance, elle couvre dans la langue arabe, c'est-à-dire l'oratène, c'est le fait de couvrir quelque chose. Le fait de couvrir quelque chose. Et ceci est employé pour le mécréant car le mécréant couvre la vérité. Le mécréant couvre la vérité et la démentit. Donc c'est pour ça qu'il est appelé kafir, un mécréant. Ensuite, maintenant dans la langue des savants, al-shirk et l'association ou le polythéisme est le plus souvent utilisé sur le fait d'attribuer une adoration quelconque pour autre qu'Allah. Tandis que le kufr, c'est-à-dire la mécréance, est le plus souvent utilisé sur le fait de démentir ou de mécroire, sur le fait de démentir ou de mécroire. Ensuite, maintenant, est-ce le shiridi hafidahama al-kafir ou al-mushrik? C'est-à-dire le mécréant, c'est un polythéiste. Et le contraire est authentique. C'est-à-dire que le polythéiste est mécréant. Donc le jugement, c'est-à-dire le jugement islamique, est identique. À savoir que la personne est sortie de l'islam et n'est plus musulman. Enfin, un point important. Le fait que, lorsqu'on lit dans les livres, le fait d'invoquer autre qu'Allah fait partie de l'association. Le fait d'attribuer une adoration pour autre qu'Allah fait partie de l'association. C'est-à-dire, ceci est du shirk. Donc, ceci est le jugement, c'est-à-dire global, c'est-à-dire le jugement, c'est-à-dire de cette action-là. À savoir, celui qui fait ça, il a commis le shirk akbar, c'est-à-dire le grand polythéisme. Quant au fait que le jugement tombe sur une personne, c'est-à-dire d'appliquer le jugement de kafir, c'est-à-dire de mécréant, ou d'associateur sur une personne quelconque, c'est-à-dire en particulier, par exemple sur Zayd ou Amar, etc., alors ceci est une autre affaire. dans le sens où il y a des conditions qui doivent être appliquées. Il y a des conditions qui doivent être appliquées. On ne peut pas faire ça à l'aveuglette. Il y a des conditions qui doivent être appliquées. Donc moi, je ne vais pas rentrer dans les détails. Le chéri, il n'a pas donné de détails, mais c'est un point très important qu'il faut comprendre. Donc, ensuite, je lis le passage. L'auteur dit, alors, la preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah Ta'ala, dans le sens, et quiconque adore avec Allah une autre divinité, une autre divinité, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire quelle que soit cette autre divinité, alors qu'il n'a aucune preuve évidente, ceci n'implique pas que quelqu'un puisse avoir une preuve évidente en cela, ou que quelqu'un puisse avoir le droit ou être en toute justice d'invoquer autre qu'Allah. Non. Ceci implique l'information. C'est-à-dire l'information à savoir qu'il n'y a pas de preuve en cela. Donc Allah Ta'ala informe ses serviteurs qu'il n'y a pas de preuve en cela. C'est-à-dire il n'y a pas de preuve qu'un autre que lui, c'est-à-dire qu'Allah, puisse être adoré. Donc, c'est une information pour montrer que ceci n'est que, c'est-à-dire ceci n'est que erreur et n'est que mécréance. Ainsi, le verset se finit par et quiconque adore avec Allah une autre divinité, alors qu'il n'a aucune preuve évidente, aura à en rendre compte à son Seigneur. En vérité, les mécréants ne réussissent pas. On a voulu faire un kafirun dans le sens où les ulama disent, les savants disent que lorsqu'Allah Ta'ala, dans un verset, il parle d'une chose particulière, d'une attitude particulière, puis à la fin du verset, Allah Ta'ala dit par exemple, innahu la yuflihu al-kafirun, ou quelque chose de semblable, c'est-à-dire dans le sens qu'on peut traduire, certes, les mécréants ne réussissent pas. Ceci implique que le jugement de cet acte-là, c'est la mécréance. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala fait le verset dit, en vérité, les mécréants ne réussissent pas. Parce que le jugement d'un tel acte, c'est-à-dire le fait d'invoquer votre karma, n'est que mécréance. Et ainsi, on comprend pourquoi l'auteur. Ainsi, on comprend pourquoi l'auteur a donné. Ainsi, on comprend pourquoi l'auteur a donné pour preuve ce verset.
بدأ بعد ذلك الكلام على الأنواع التي ذكرها للعبادة، وأول نوع منها هو الدعاء. والدعاء من أعظم أنواع العبادة ومن أجل أمثلتها، ويكفيك في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه الدعاء هو العبادة، هذا هو اللفظ الصحيح لهذا الحديث. وأما اللفظ الآخر الذي ذكره الشيخ رحمه الله الدعاء مخ العبادة فلا يصح. فترى بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الدعاء عبادة وجعله من أعظم الأشياء التي تدخل فيها. وكذلك وقعت هذه التسمية في كلام الله عز وجل كما في الآية التي استدل بها الشيخ من قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، العبادة هنا ما هي؟ هي الدعاء. يستكبرون عن عبادتي أي دعائي الذي ذكره أولا، سيدخلون جهنم داخرين أي أذلاء في حالة من الذل والعياذ بالله. فسمى الله عز وجل الدعاء عبادة، وكذلك سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدعاء من أعظم أمثلة العبادة ومن أجل أنواعها. والعلماء عندما يتكلمون على الدعاء يقسمونه إلى قسمين: دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء العبادة ودعاء المسألة. فدعاء العبادة هو التوجه لله تعالى بالقربة، أن تتقرب إلى الله، أن تتوجه إلى الله، هذا يسمى دعاء عبادة. فدخل في ذلك جميع ألوان العبادات، جميع ألوانها وأنواعها تدخل في دعاء العبادة. وهذا القسم من الدعاء لا يجوز أن يصرف إلى غير الله أبدا، ليس هناك تفصيل في هذه المسألة. لماذا؟ لأن دعاء العبادة كما عرفت هو التوجه إلى الله، التقرب إلى الله. فتوجه هذا أو التقرب يمكن أن يصرف منه شيء لغير الله؟ ما يمكن. وأما دعاء المسألة فهو دعاء الطلب، دعاء الطلب، أن تطلب من الله عز وجل شيئا معينا. تقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، اللهم اشفني. هذا كله دعاء مسألة، طلب، تطلب فيه شيئا من الله عز وجل. وهذا النوع من الدعاء لا يجوز كذلك أن يصرف إلى غير الله إذا كان في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله. يعني أنت تطلب شيئا معينا، تريد شيئا معينا، هذا الشيء هل هو من الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله؟ المغفرة والرحمة والشفاء والنجاة من العذاب ودخول الجنة وسعة الرزق ونحو ذلك، هذه أشياء لا يقدر عليها إلا الله، فلا يجوز أن تطلبها من غير الله، لا يجوز أن تتوجه في شيء منها إلى غير الله. فإذا حصل شيء من ذلك، يعني لو توجه شخص بدعاء المسألة بهذه الصفة إلى غير الله عز وجل، فهذا شرك أكبر أيضا، لأنه طلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله. وأما إذا كان الشيء الذي تريده أو تطلبه مما يمكن أن يقدر عليه البشر، فهذا لا بأس أن تطلبه منه. تطلب من أخيك مثلا أن يناولك شيئا، أو يعطيك مالا، أو يقرضك كتابا، أو يحضر لك طعاما، أو يساعدك في عملك، فهذا كله لا بأس. والدعاء في هذه الحالة ليس دعاء بالمعنى التعبدي، وهذا ظاهر، لأنه لجوء إلى شخص أو إلى أحد من الناس فيما يقدر عليه، وهذا ليس فيه إيش؟ ليس فيه عبادة وليس فيه تقرب. وهناك شرطان آخران ذكرهما العلماء بالنسبة للطلب من المخلوق. ذكرنا شرطا وهو ماذا؟ أن يكون فيما يقدر عليه. هناك شرطان آخران، الأول أن يكون هذا المخلوق حيا، فلا يجوز الطلب من إيش؟ من الميت، حتى ولو كان الذي تطلبه من الميت مقدورا عليه حال حياته. يعني الشخص عندما يكون حيا يستطيع أن يقرضك مالا مثلا، يستطيع أن يدعو لك الله مثلا، لكن عندما يموت ما يصلح، لا يجوز لك أن تقول هو كان قادرا على هذا في حياته إذن أنا أطلبه منه بعد مماتي. لا، لا يجوز هذا، لابد أن يكون إيش؟ حيا. الشرط الثاني أن يكون حاضرا، يعني موجودا، فلا يجوز الطلب من الغائب. الغائب اللي هو إيش؟ الذي لا تستطيع أن تكلمه مباشرة، يعني هو حي في هذه الحياة الدنيا ولكن هو في مكان بعيد عنك، لا تستطيع أن تكلمه ولا حتى بالطرائق الإيش؟ غير المباشرة، في الهاتف أو النت أو كذا أو كذا، وإنما تقول هكذا بشكل عام يا فلان، وهو لا يسمعك، يا فلان افعل لي كذا، هذا ما يجوز طالما أنه إيش؟ لا يسمعك، طالما أنه غائب عنك. فالحاصل أن الطلب من المخلوق له كم شرط؟ ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون حيا، الشرط الثاني أن يكون حاضرا، الشرط الثالث أن يكون قادرا على ما يطلب منه. فإذا اختل شرط من هذه الشروط فالطلب في هذه الحالة طلب شركي، يدخل في دائرة الشرك.
لا
لا خلاص يبقى يفصل. طيب ابدأ بالترجمة. خلاص يا أستاذ مصطفى، خلاص لا بأس عشان الوقت، بس ما هو الأخ حيبتدي، ولكن لو استعصى عليكم ما في مشكلة. يبدأ أبو.
Donc la parole sur sur l'invocation. Troisième point principal, la parole sur l'invocation.
وكده سيصل عيسى، سيصل هكذا. طيب لا بأس، لا بأس.
La parole sur l'invocation. Donc, parmi les plus belles adorations et les plus précieuses, et l'invocation. Et l'invocation. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ad-du'a mughu al-ibada, elle n'est pas authentique. La parole authentique, c'est ad-du'a mughu al-ibada. Et le sens, de toute façon, en français, il est très proche. Dans le sens où, le sens en français, c'est, en fait, sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'invocation, c'est l'adoration. Ou c'est l'essentiel de l'adoration. Et ceci est vérifié par le verset. Allah Ta'ala dit dans le sens, et votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Ceux qui, par orgueil, se refusent à m'adorer, entreront bientôt dans l'enfer humilié. Donc Allah Ta'ala, au début du verset, il dit quoi? Il dit, invoquez-moi, dans le sens, c'est-à-dire, Oud'ouni, invoquez-moi. Ensuite, Allah Ta'ala, il dit, An ibadati. Donc, Allah Ta'ala, il a appelé Ad-du'a ibada dans le verset. Parce qu'Allah Ta'ala, il dit au début, invoquez-moi. Ensuite, pour signifier la même chose, m'adorer. L'adoration. Donc, parmi les plus grandes invocations, les plus grandes adorations et les plus belles, il y a bel et bien l'invocation. Et l'invocation, comme les savants le disent, se divise en deux. Du'a ou l'ibada, c'est-à-dire l'invocation de l'adoration. Et ceci est tout ce qui rapproche d'Allah. Tous les actes de dévotion, qui rapprochent vers Allah Ta'ala. Ceci rentre dans Ad-du'a al-ibada, l'invocation de l'adoration. Et donc, il n'est pas permis d'attribuer à autre qu'Allah une quelconque de ces adorations-là. Deuxièmement, du'a al-mas'ala, c'est-à-dire l'invocation de la demande, c'est-à-dire le fait de demander quelque chose à Allah. Ou Allah, guéris-moi, ou Allah, donne-moi telle chose. Donc, à ce niveau-là, il y a un petit détail qu'il faut bien comprendre, à savoir qu'il n'est pas permis de demander à autre qu'Allah ce que seul Allah Ta'ala peut réaliser. Donc, ce que seul Allah peut réaliser, ceci ne doit être demandé que à Allah seul. Par exemple, la santé, en fait, quelqu'un demande qu'Allah le guérisse, qu'Allah le fasse entrer au paradis, qu'Allah Ta'ala le sauve de l'enfer, qu'Allah Ta'ala l'augmente dans sa subsistance. Donc ces choses-là, c'est des choses qui doivent être demandées que à Allah. Car seul Allah est capable de les réaliser. Et le fait de demander une de ces choses-là à autre qu'Allah, comme l'entrée au paradis, ou la protection de l'enfer, etc., ceci entre dans l'association, la grande association, Shirkul Akbar. Ensuite, tandis que le fait de demander à une créature ce qu'elle est capable de réaliser, par exemple, prête-moi ton cahier, ou donne-moi à manger, ou des choses que la créature est capable de réaliser, alors ceci est permis. Selon deux conditions. La première est que cette personne à qui tu demandes doit être vivante. Elle doit être vivante. Donc, il n'est pas permis de demander à un quelconque mort. Même si ce mort, durant son vivant, était capable de réaliser ce que tu désirais. Par exemple, si c'était un mort, il était riche, par exemple, de son vivant, il aurait pu te donner un peu de son argent. Une fois qu'il est mort, il n'est pas permis, cet exemple, je donne de moi pour que vous compreniez. Donc, il n'est pas permis à partir du moment où il est mort, il n'est plus permis de lui demander quoi que ce soit. La deuxième condition, c'est qu'il soit présent. C'est-à-dire qu'il soit présent, qu'il entende ce qu'on dit. et ceci implique le fait qu'il soit présent, c'est-à-dire aux côtés du demandeur, ou même qu'il soit présent, c'est-à-dire que la personne lui demande par voie, c'est-à-dire téléphonique par exemple, ou par internet, du moment qu'elle est présente lorsqu'il parle, c'est-à-dire elle va entendre, elle va comprendre ce que tu lui demandes. Tandis que le fait de demander à quelqu'un quelque chose alors qu'il est absent, par exemple il est dans un pays lointain où il est absent, ceci n'est pas permis. Car la personne ne peut pas t'entendre, elle ne peut rien réaliser pour toi. Donc voilà pour résumer les trois conditions. La première, c'est que tu lui demandes quelque chose qu'elle est capable de faire, qui est dans sa capacité. La deuxième, qu'elle soit vivante. Et la troisième, qu'elle soit présente. C'est-à-dire qu'elle entende ce que tu dis et qu'elle soit présente.
النوع الثاني بعد ذلك من أنواع العبادة هو الخوف، وقد استدل عليه الشيخ بقول الله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فربط الخوف بالإيمان، إذا كان الشخص من المؤمنين حقا فإنه يخاف الله، فهذا دليل على أن الخوف من العبادة لأنه مربوط بالإيمان. وضابط الخوف التعبدي، متى تعرف أن هذا الخوف هو خوف العبادة، خوف القربة، ما ضابطه؟ قال العلماء هو الخوف من الشيء أو الشخص أو نحو ذلك أن يصيب بضرر معين بمشيئته وقدرته، يعني نحن نعتقد في الله عز وجل أنه يصيب من يشاء بالضرر ويصيب من يشاء بالأذى بمشيئته وقدرته استقلالا، يعني لا يحتاج الله عز وجل إلى أحد في ذلك. ثم الأشياء التي يصيب بها الله من الأذى والضرر هي أشياء لا يقدر عليها إلا الله، من ناحية المرض والفقر ونحو ذلك، فهذا هو خوف العبادة. فإذا صرف شيء من هذا الخوف لغير الله فهذا شرك أكبر. من اعتقد في شيء معين أو شخص معين أنه يتصف بشيء من هذه الصفات وخافه هذا الخوف فقد أشرك بالله، هذا هو خوف العبادة الذي نتحدث عنه. هناك أنواع أخرى من الخوف يتكلم عليها العلماء حتى يبينوا أنها ليست من العبادة، ليست من الخوف التعبدي. فهناك خوف محرم، معصية لا يصل إلى الشرك، وهو الخوف من بعض الناس من الظالمين مثلا، أنهم ينزلون بك عقابا معينا أو ضررا معينا يقدرون عليه، من الضرب أو السجن أو القتل، فيدفع هذا إلى معصية الله، يدفع هذا الخوف إلى معصية الله، تترك شيئا من الواجبات أو تفعل شيئا من المحرمات، فهذا خوف محرم، هذه معصية. إلا إذا وصل إلى حد الإكراه، إذا وصل إلى حد الإكراه فهو معفو عنه. والكلام في الإكراه ليس محله الآن. وهناك نوع آخر من الخوف، وهو خوف الطبيعة والجبلة، كالخوف من الأعداء والخوف من النار والخوف من حيوان مفترس، فهذا خوف طبيعة وجبلة يعفى عنه. وقد ذكره الله عز وجل عن بعض أنبيائه وهو موسى عليه السلام، فخرج منها خائفا يترقب، هذا في سورة القصص معروف. فمثل هذا النوع من الخوف لا يؤثر ويعفى عنه. نعم. خوف العبادة هو الخوف من الله، أن تخاف من عذاب الله أو من عقوبة الله أو من الضرر الذي يحدثه الله بمشيئته وقدرته استقلالا، الضرر الذي لا يقدر عليه إلا الله. فالخوف الذي ينبني على هذا هو خوف العبادة. نعم. واضح الآن؟
الذي يخاف هذا الخوف من غير الله.
هو يعني أيضا ذكر شيئا مهما، يعني بالنسبة للذين يخافون من الأولياء مثلا، الذين يعبدون الأولياء تقربون إلى الأولياء، هؤلاء فعلا يخافون أولياءهم بنفس هذا الخوف والعياذ بالله. ولهذا يعني أنا لم أرد أن أذكر هذا المصطلح لأنه قد يكون صعب في الترجمة. هناك ما يسمى بخوف السر، خوف السر، هذا هو خوف العبادة الذي نتكلم عليه، يسمى بخوف السر. وهذا هو الذي يعتقده أصحاب القبور في أوليائهم ومقبوريهم، يقولون إياك أن تفعل كذا لأن الولي إيش سيصيبك، سيصيبك بأذى وسيصيبك بضرر وكذا وكذا. هذا شرك والعياذ بالله، هذا شرك أكبر. هذا النوع من الخوف طبعا ناهيك عن صرف العبادة، هذا شيء آخر، لكن نتكلم على نفس هذا الخوف. هذا الخوف في حد ذاته لا يصلح إلا لله، لا يجوز أبدا أن يصرف إلى غير الله. لا.
Donc, quatrièmement, la parole sur el-khouf, sur la peur. Donc, l'auteur dit, rahimahullah ta'ala, la preuve concernant la peur, c'est-à-dire la peur d'Allah, se trouve dans la parole d'Allah ta'ala, dans le sens, n'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. Donc, Allah ta'ala, dans le verset, à accoler, c'est-à-dire à rapprocher la foi avec la peur. Ce qui montre que la crainte d'Allah fait partie de la foi. Ce qui montre que la crainte d'Allah, la peur d'Allah fait partie de la foi. Et la crainte d'Allah, la peur d'Allah, c'est le fait d'avoir peur d'Allah, c'est-à-dire de son châtiment, ou avoir peur qu'Allah Ta'ala te touche d'un quelconque mal. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala te touche d'un quelconque mal. Comment savoir si cette peur est une adoration ou non? Ceci, comme je viens de le dire, est le fait, comme nous croyons qu'Allah Ta'ala touche qu'il veut par ce qu'il veut. C'est-à-dire Allah Ta'ala, il touche par un quelconque mal qu'il veut, par une maladie ou une épreuve, etc. Donc, quelle est cette peur qui est d'adoration? C'est le fait que de croire qu'une quelconque chose peut faire cela, c'est-à-dire peut te toucher d'un mal, peut te toucher d'un mal de par sa propre volonté. Dernier, celui qui croit qu'une quelconque chose puisse te toucher d'un mal, puisse te toucher d'un mal de par sa propre volonté. Entre la peur. Par exemple, Cheikh il a donné comme exemple El Khouf ou Sir, ce qu'on appelle la peur discrète, la peur secrète. C'est le fait, par exemple, ceux qui adorent certains tombeaux, certains morts, certains saints prétendus, ces gens-là, ils ont dans leur cœur un khawf sir, c'est-à-dire la peur discrète, c'est-à-dire il a peur que son wali, il va l'atteindre d'un quelconque mal, d'une maladie, ou d'une perte, ou d'une épreuve, etc. Ainsi, par exemple, s'il ne va pas sacrifier pour lui, alors il a peur, il dit, le wali va s'énerver contre moi, il va m'éprouver d'un quelconque mal, etc. Et ça fait partie du shirk akbar. Rien que le fait d'avoir ça dans son cœur, ceci est une association, une grande association. Donc, ça revient à ce qu'on avait dit le premier cours, à savoir le fait de croire qu'un quelconque autre qu'Allah peut te toucher d'un mal sans la volonté d'Allah. Si ce n'est pas possible, rien ne peut te toucher sans la volonté d'Allah. Ce qu'Allah veut va te toucher, ce qu'Allah ne veut pas ne va pas te toucher. Je fais des parenthèses pour que vous compreniez, parce que c'est un sujet un peu délicat. La peur, ensuite, la deuxième type de peur, la peur interdite. Ce qui n'est pas de l'association. Ce qui n'est pas de l'association. Qui est donc d'un degré moindre. C'est le fait d'avoir peur de certains malfaiseurs, par exemple. D'avoir peur d'eux. De se dire, ah, ces gens-là, ils vont me toucher d'un mal. Alors, ce qui t'engendre à tomber dans la désobéissance d'Allah, alors à cause de cela. Ceci est interdit. C'est-à-dire, avoir peur de certains malfaiteurs, par exemple, c'est-à-dire que ces gens-là, ils vont causer un mal, alors, de par cette peur-là, le fait de désobéir à Allah, à cause de cela. Donc cette personne-là, la peur qu'il engendre, sans compter la désobéissance, le fait d'avoir peur de ces gens-là, de cette manière-là, il est désobéissant. Sauf si cela rentre dans la contrainte. Si cela rentre dans la contrainte, alors il est pardonné. Ensuite, le shir, il n'a pas voulu expliquer les détails, qu'est-ce qu'il a fait dans Allah, qu'est-ce qu'est la contrainte, etc. On reviendrait parler savants sur cela. Donc vous avez compris la différence entre la. Non, c'est très important, les frères de France. Vous avez compris la différence entre entre la peur, c'est-à-dire occulte, et la peur de désobéissance. C'est ça. La peur naturelle, ensuite, c'est la peur qui est permise, le fait d'avoir peur d'une chose. C'est la peur qui est permise, la peur naturelle. Comme Moussa, par exemple, lorsque Moussa, Allah Ta'ala, nous raconte dans Surat Al-Qisas, que lorsqu'il est rentré dans la ville, il a eu peur. Pourquoi? Parce qu'il avait, tué une personne la veille, et il a eu peur qu'on vienne, c'est-à-dire qu'on l'emprisonne ou qu'on lui fasse quelque chose. Donc la peur naturelle, devant par exemple devant un lion, tu tombes devant un lion, ta peur naturelle, ça c'est quelque chose qui est naturel, qui tu n'encours pas de péché pour cela.
أخيرا الكلام على الرجاء. الرجاء أيضا من أنواع العبادة، والدليل قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه، أي من كان يطمع في لقاء الله عز وجل ويريد ذلك ويحرص عليه ويريد أن يفوز بما في هذا اللقاء من الثواب والرضوان، فليعمل عملا صالحا، لا بد أن يأتي بالعمل، لا بد أن يعمل لله عز وجل، ولا بد أن يكون عمله هذا صالحا، أي موافقا للشرع، موافقا للسنة. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا بد أن يكون خالصا لله عز وجل، لا يصرف منه شيئا لغير الله، لا في الظاهر ولا في الباطن. والرجاء عموما هو الطمع في شيء معين، الحرص عليه. تقول مثلا: أرجو ثواب الله، يعني إيش؟ يعني أريد، يعني أحرص عليه. تقول: أرجو لقاء الله، يعني أريد، أحرص عليه، أطمع فيه، أطمع في الثواب. هذا هو معنى الرجاء. ورجاء العبادة الذي نتكلم عليه هو كما تكلمنا في الخوف تماما، أن ترجو الله سبحانه وتعالى في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، في الأمور التي يحدثها الله بمشيئته وقدرته استقلالا. ترجو رحمته، ترجو ثوابه، ترجو جنته، هذه أشياء لا يقدر عليها إلا الله. وهناك أنواع أخرى من الرجاء كالخوف تماما. هناك رجاء محرم، أن ترجو من المخلوق مصلحة معينة، يوليك منصبا، يعينك في مكان معين، يعطيك شيئا من المال، فيدفعك هذا إلى معصية الله، ترتكب مخالفات حتى تحصل على إيش؟ على المصلحة، ترجو هذه المصلحة، هذا رجاء محرم. وهناك رجاء مباح، وهو رجاء منفعة المخلوق الشرعية التي لا تخالف الدين في الأشياء التي يقدر عليها. ترجو منه مالا بطريق شرعي ليس حراما، هذا لا بأس به. ترجو منه إذا كان عالما أو شيخا أو طالب علم، ترجو منه أن يعلمك، أن يفيدك، هذا لا بأس به. فإذا كان الرجاء في الأمور التي يقدر عليها المخلوق وفي الأمور الشرعية التي لا تخالف دين الله، فهذا رجاء مباح لا بأس به. نعم. طبعا هذه نهاية حديثنا اليوم إن شاء الله، لكن أحب من الإخوة ألا ينصرفوا بعد الترجمة، لأن في أشياء مهمة جدا أريد أن أقولها لكم بعد الترجمة مباشرة إن شاء الله. إيش حصل؟ إيش حصل؟
أرك الله. L'auteur dit, rahimahullah ta'ala, la preuve concernant l'espoir en Allah réside dans la parole d'Allah ta'ala, dans le sens, quiconque espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe personne dans l'adoration de son Seigneur. Donc quiconque espère rencontrer son Seigneur, c'est la preuve que Ar-Raja, l'espérance, quiconque espère rencontrer son Seigneur, c'est-à-dire qu'il espère dans la rencontre d'Allah, dans sa satisfaction, dans le fait d'entrer dans son paradis, d'être sauvé de l'enfer, etc. Qu'il fasse de bonnes actions. فَلْيَعْمَلْ عَمَلْ صَالِحًا. Qu'il fasse de bonnes actions. Donc, l'espérance en elle-même ne suffit pas. Il faut l'œuvre qui l'accompagne. L'espérance en elle seule ne suffit pas. Il faut l'œuvre qui l'accompagne. Et cette œuvre-là doit فَلْيَعْمَلْ عَمَلْ صَالِحًا. Qu'il œuvre une œuvre bonne. Comme si Allah Ta'ala l'a répété deux fois. عمل dans le sens qu'elle موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, qu'elle soit conforme, que cette œuvre là soit conforme avec la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم. Donc l'œuvre que tu fais pour Allah doit être conforme à la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم. Ensuite Allah Ta'ala dit, et qu'il n'associe personne dans l'adoration de son Seigneur, c'est-à-dire que la parole qu'il fait,
هذا متأخر جدا. هذا ينقل ال إيه نعم. طيب لا بس إحنا انتهينا على كل
حال. إن شاء الله. Donc comme on a dit, quiconque espère rencontrer son Seigneur, c'est-à-dire il espère dans la rencontre d'Allah, dans sa satisfaction, dans son paradis, qu'il fasse de bonnes actes, qu'il œuvre une œuvre bonne, c'est-à-dire qu'il l'espérance en elle-même ne suffit pas, il faut qu'elle soit accompagnée d'œuvres. Et ces œuvres-là doivent être conformes à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et enfin, Allah Ta'ala est fini par le verset dans le sens, il dit, et qu'il n'associe personne dans l'adoration de son Seigneur. C'est-à-dire qu'il soit sincère dans son action. C'est-à-dire qu'il ne la fasse que pour Allah. L'espoir, dans la langue arabe, a pour sens espérer en une chose, c'est-à-dire la rechercher, la désirer. Et maintenant, dans l'adoration, quel est Ar-Raja, c'est-à-dire l'espoir d'adoration? C'est le fait d'espérer en Allah, c'est-à-dire le shir avant de dire ça, il dit que Ar-Raja c'est comme Al-Khawf, c'est la même chose. C'est-à-dire c'est le même qiyas, c'est-à-dire c'est la même analogie. Comme on a vu, la peur, c'est le fait, la peur d'adoration, c'est le fait d'avoir peur en une chose que seul Allah Ta'ala est capable de faire en sorte qu'elle te touche. Alors cette peur-là, elle doit être vouée que pour Allah, parce que seul Allah est capable que ce mal-là te touche. Comme on a dit, par exemple, une maladie ou une épreuve, etc. De même, l'espérance, c'est la même chose. Espérer en une chose que seul Allah est capable d'exaucer. Donc ce type d'espérance-là ne doit être voué que pour Allah. Le fait, par exemple, d'espérer le paradis, cette espérance-là, elle est vouée que pour Allah. L'espérer en la satisfaction d'Allah, cette espérance-là, elle n'est vouée que pour Allah. Ensuite, la deuxième chose, comme on a vu, la peur, il y a la peur qui est interdite. C'est-à-dire le fait d'avoir peur en une chose, et que une chose, une créature, par exemple des malfaiteurs, et ceci te fait tomber dans la désobéissance d'Allah. Donc ça, on avait dit que c'était la peur qui était interdite. C'est la peur qui était interdite. Tandis que l'espérance qui est interdite, c'est le fait que tu espères en une créature quelque chose qu'elle est capable de réaliser. C'est-à-dire qu'elle est capable de réaliser cette chose. Tu espères en lui de l'argent, tu espères en lui une voiture, tu espères en lui un travail. Mais cette espérance-là, elle te fait tomber dans la désobéissance d'Allah. Donc ça, c'est l'espérance qui est interdite. Et enfin, l'espérance qui est permise, c'est le fait d'espérer en une créature, dans ce qu'elle est capable de faire, sans que cela ne te fasse tomber dans aucun interdit. Par exemple, tu espères en ton shir, c'est-à-dire ton professeur qui va t'enseigner. Tu espères quelqu'un qui va donner quelque chose sans que cela ne te fasse tomber dans un interdit alors que c'est permis. Allahu a'lam.